Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Ensemble, sous la pluie, prenons soin des autres. On se retrouve demain, 7h45 pour le Pit Stop, 14h, avec les demoiselles.
Bye. Salut!
Bye-bye!
Ciao!
Salut!
Boulevard 102 célèbre ses 10 ans. Il y a 10 ans, Leclerc Communication lançait sa radio 100% conçue à Québec et pour les gens de Québec. Le 22 octobre dès 17h, ne manquez pas l'événement 10 ans de Boulevard au Malcommode. Lancement de la bière La Gravelle, édition 10 ans Boulevard. Et l'intronisation au Radio Hall of Fame du duo Denis et Véro, qui souligne 20 ans de carrière.
20 ans?
Le 22 octobre dès 17h au Malcommode. Musique live avec Big Bob, un paquet de surprises et une soirée mémorable avec toute l'équipe de Boulevard. Venez nous rejoindre, c'est ouvert à tous. Gagnez vos billets VIP en écoutant Boulevard 102.1. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir. Le soir. Le soir.
Quelle bonne nouvelle à la grandeur du Québec. À plusieurs endroits, il pleut, ce qui fait en sorte que, Colin, les cours d'eau vont augmenter un peu. Pour ce qui est des gens qui peinaient à avoir des réserves d'eau, ben pour ce qui est de cette semaine, c'est rare qu'on dise ça, parce que normalement, quand la pluie arrive, des fois, ça fait énormément de mécontents. Mais on va se le dire, avec le niveau d'eau qu'on avait, il y a de ça quoi, 4-5 jours, le fleuve Saint-Laurent, on trouvait que ça faisait pitié. Et dans certaines marinas du Québec aussi, on avait de la misère à sortir les bateaux de l'eau. Donc, en fin de semaine, on a réussi à augmenter le débit d'eau du fleuve Saint-Laurent, faire monter ça d'à peu près une vingtaine, le niveau d'eau d'une vingtaine de centimètres, ce qui fait en sorte que dans plusieurs marinas, ben, on en a profité pour sortir les bateaux. Mais bref, on s'en est sorti, les amis. Mais pour ce qui est de la pluie, par exemple, on s'en sortira pas parce que toute la semaine, on nous annonce des averses. Fait que bref, des températures automnales. On accueille Maître Marc Bellemare qui est là avec nous. Bonjour, Maître Bellemare.
Bonjour, comment ça va, Yannick?
Ça va très bien. Avez-vous profité du fleuve Saint-Laurent en fin de semaine, vous aussi? Parce que ça a augmenté le niveau d'eau. On a réussi à augmenter ça de façon artificielle. On a libéré les lacs en Ontario, puis on a libéré aux 2 secondes, on libérait l'équivalent d'une piscine olympique, puis ça a fait une petite différence.
Oui, effectivement, mais tu sais qu'il y a un problème d'eau qui est assez criant un peu partout au Québec. On sait qu'il y a plusieurs résidents qui ont des problèmes avec des puits. Il paraît que les foreurs de puits font une fortune de ce temps-là. Ils ont des appels parce que les puits sont à sec. Et j'ai passé la fin de semaine à l'île aux Grues, en face de Montmagny, où il y avait un spectacle d'oies blanches absolument extraordinaire. C'est tapisside blanc sur le long du fleuve, à Montmagny, du côté nord de la rive, entre Cap-Tourmente et Montmagny. Donc, c'est un spectacle magnifique. Mais on me disait là-bas, parce qu'il y a une fromagerie, la fameuse fromagerie de l'île aux Grues qui produit le non moins fameux fromage Riopelle, notamment, il paraît qu'ils font venir des citernes d'eau parce que, évidemment, le résidentiel, il consomme moins, mais les entreprises comme la fromagerie qui produit quand même abondamment différents fromages de réputation internationale, d'ailleurs, sont obligés de faire venir des citernes d'eau parce qu'il manque d'eau. Parce qu'ils ont besoin d'avoir de l'eau en quantité. Pour produire du fromage, évidemment, ça ne prend pas juste 1 litre par jour. Là. Ouais. C'est une grosse production. Et ils font venir des citernes d'eau. Alors, la pluie cette semaine, ben, c'est le malheur des uns, comme dit l'autre.
Oh, oui.
Le bonheur des autres, ben, c'est notre bonheur collectif aussi qu'il faut considérer parce qu'il y a véritablement un problème d'eau au Québec.
Ouais.
Et voilà, alors, moi, je pense que c'est. Il y a du bon là-dedans, surtout que. Cette semaine, ben, il y a beaucoup de gens qui travaillent. Quand tu travailles, ben, qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau, c'est sûr que c'est moins grave. Alors, je pense que le soleil va revenir la fin de semaine prochaine. C'est ce qui compte le plus, là.
On va se le souhaiter, mais il y a des municipalités au Québec qui ont demandé à leurs pompiers de cadenasser les bornes fontaines parce qu'il y a des malins qui allaient aux bornes fontaines pour se ravitailler en eau, ce qui faisait en sorte que la municipalité voyait une baisse de pression drastique, la baisse de niveau des réserves d'eau. On en est rendu là, 2025, Maître Bellemare, cadenasser des bornes fontaines. fontaines. Dans certains pays, on doit protéger les réserves d'eau parce qu'il en manque énormément. Il y a des gens qui marchent des kilomètres et des kilomètres. Nous, on a toujours considéré ça comme acquis. Et là, on se rend compte que, à partir du moment où on manque d'eau, on se rend compte à quel point l'eau, c'est important, là.
Oui, puis pourtant, on est entouré d'eau. On a le Québec, on est chanceux, on a le Saint-Laurent, l'Atlantique, l'océan Arctique. On est entouré, on est un des pays les plus favorisés par les réserves d'eau. Il y a 6 000 lacs au Québec, il y a de l'eau partout, mais pourtant, pour des raisons de consommation, on en manque. Alors, l'eau qu'on voit sur le fleuve, qui est magnifique, l'eau qu'on voit sur l'Atlantique aussi, c'est parfait, mais c'est pas ça qui fait que tu vas avoir un verre d'eau sur ta table pour boire et faire ta popote, là. Alors, c'est ça le problème. Et écoute, il y a beaucoup de bouleversements, là. On regarde ça, les feux de forêt, l'eau, les tempêtes, les routes arrachées. Moi, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'on si ça continue, tôt ou tard, on va payer cher pour tout ça, moyenne, là, notre belle planète est manifestement malade, et si chez nous, ça ressemble à ça, imagine-toi à quoi ça peut ressembler dans des pays autour de l'équateur, là, où ils ont véritablement des sécheresses de plus en plus importantes. Alors nous, on est quand même favorisés parce qu'on est au nord, mais il reste qu'on commence à avoir, là, des changements climatiques qui vont changer drastiquement nos habitudes de vie d'ici 15-20 ans. Je pense qu'on n'a rien vu encore, là.
Maître Bellemare, sondage sur la souveraineté du Québec d'ici 2030. Est-ce que ça vous surprend que si on fait un chiffron, là, c'est 60 % des Québécois qui veulent rien savoir de référendum?
Oui, qui veulent rien savoir de référendum. Est-ce qu'il y en a qui... C'est... Ben, les Québécois disent qu'ils ne veulent pas de référendum. En même temps, ils donnent un appui très clair au Parti québécois. Je pense que c'est véritablement un vote d'opposition à la CAQ. Le message est clair, M. Legault. Si vous voulez faire des bons coups d'ici un an, ben les votes que vous allez aller chercher sont des votes de moins pour le PQ. Les gens sont découragés, ils donnent pas leur appui aux libéraux, ils donnent pas leur appui à Solidaire, ils donnent un peu plus d'appui à M. Duhaime, au Parti conservateur du Québec, puis ils donnent beaucoup d'appui au PQ. C'est considéré comme étant l'alternative, mais il y a encore un bon bout à faire, là. L'élection, c'est dans un an. On verra bien. Je pense que Saint-Pierre Plamondon doit aussi arriver avec une équipe. Comprends-tu? Ça va être qui le ministre des Finances? Ça va être qui? On a vu Pierre Poilievre au fédéral avec des sondages extrêmement favorables, 20-25 % de plus que les libéraux un an avant l'élection de M. Carney. Mais quand ça a été le temps d'arriver en campagne électorale, on cherchait son ministre des Finances, on cherchait son ministre de la Santé. On cherchait son ministre des Affaires intergouvernementales, puis on ne le trouvait pas parce qu'il faisait cavalier seul. Il n'y a pas une grosse députation au PQ, là. Ils ont 5 ou 6.
Ouais, on a
Alors.
Alex Boissonneau, on a Catherine Genticor, on a Joël Arsenault, on a Pascal Bérubé qui est un vieux de la veille, puis on a Pascal Paradis.
Puis M. Saint-Pierre Plamondon. Fait qu'ils sont 6. Ça veut dire, au total, il va falloir qu'il aille chercher une équipe. Mais je pense qu'il doit avoir des téléphones intéressants de ce temps-là, parce qu'à chaque fois qu'un parti présente des sondages favorables, je ne parle pas au niveau de la souveraineté, là, je parle au niveau de sa popularité dans l'ensemble des partis politiques, les 5 grands partis politiques au Québec, à chaque fois qu'il y a des sondages favorables, le téléphone sonne, puis il y a des souverainistes qui peuvent être intéressés. Alex Boissonneau, c'était quand même une candidature intéressante. Écoute, il y a une bonne députation, là. Pascal Bérubé, c'est un député très, très, très aimé. C'est un député facilement ministrable. Pascal Paradis a une belle expérience. Donc, il y a quand même des députés de qualité au Parti québécois. Il faut le reconnaître. Maintenant, on ne forme pas un gouvernement avec 6 personnes. Ça va prendre d'autres personnes. Et c'est au cours de l'hiver et du printemps, probablement, qu'on va voir la popularité du PQ en termes de candidature intéressante pour occuper les portefeuilles les plus importants, parce qu'on sait que le Québec est mal en point à plusieurs points de vue. Au point de vue économique, les investissements de M. Legault ont foiré de plus en plus. On voit des preuves de ça. La santé, ça marche pas. L'éducation non plus. Alors, les Québécois ont beaucoup, beaucoup d'attentes en termes de services à la population. Puis c'est à ça, bien sûr, que le Parti québécois va devoir s'attarder au cours des prochains mois, là.
Je parlais avec Pascal Paradis la semaine dernière de Marceau Soir, puis je lui ai reposé la question concernant l'indépendance du Québec. Eux sont persuadés que dans un premier mandat, le gouvernement du Parti québécois pourrait y aller avec un référendum sur l'indépendance. Mais quand on regarde les sondages actuels, les Québécois ne veulent pas ça. Est-ce que ça va être inévitablement un recul de la part du Parti québécois une fois arrivé au pouvoir? Parce que s'il y avait des élections demain matin, c'est le Parti québécois qui est au pouvoir, Maître Bellemare, là. Donc, il n'y aurait pas le choix de reculer. Ils ne sont pas prêts pour ça encore.
Bien sûr, mais il y a beaucoup. Vous savez, tu sais que l'électorat est très volatile sur les questions. Moi, je me souviens en 95, quand Jacques Parizeau, qui est élu, je pense que c'est le 12 septembre, de mémoire, je pense que c'est le 12 septembre 94 que Jacques Parizeau est élu. Il s'en va avec un référendum en 95. Et quand il a déclenché la procédure référendaire, il y avait à ses côtés, il y avait Lucien Bouchard qui était du Bloc québécois et il y avait Mario Dumont de l'Action démocratique du Québec. Si je me souviens bien, ils étaient trois autour de la table. Ils ont annoncé qu'il allait y avoir un référendum. Et il y avait à peu près 41-42% des Québécois qui étaient favorables à la souveraineté. Et à partir du moment où Jacques Parizeau a dit publiquement « Je nomme... » Lucien Bouchard comme mon éventuel négociateur en chef avec le reste du Canada advenant un oui, ça a monté de 6 points ou 7 points d'un coup. Parce que les gens avaient une confiance sans borne en Lucien Bouchard, et c'est ça qui fait qu'on s'est retrouvé avec 49,5% de oui, là. Yannick, alors, question de personnalité, question de timing, il suffirait que le fédéral fasse une coupe de mauvais coups, que les Québécois se sentent méprisés, comme ça a été le cas pour le lac Meech, par exemple, ce qui a donné naissance au Bloc québécois à l'époque. Quelques mauvais coups du fédéral, quelques bons coups du PQ, ça pourrait changer. Puis il y a aussi une question importante actuellement qui subsiste, parce que j'ai vu qu'il y avait plusieurs sondages qui sont sortis au cours de l'année qui montraient qu'il y avait une tendance positive du côté des jeunes pour la souveraineté. Ça, c'est la grande question. Je comprends qu'il y a beaucoup de gens qui sont contre un référendum, mais la question des jeunes est une question particulière. Je sais pas, moi, j'en rencontre beaucoup des jeunes de 25-30 ans qui sont pour la souveraineté du Québec. Est-ce qu'ils sont sondés, ces gens-là? Est-ce qu'ils vont garder leurs opinions pour la souveraineté? Est-ce qu'ils sont nombreux? Est-ce qu'ils vont aller voter si jamais il y a un référendum? Est-ce qu'ils vont aller voter à l'élection générale de l'automne 2026? Je ne le sais pas. Mais disons que c'est une question qui reste à régler, puis on verra en cours de 2026 là, qu'est-ce que ça donne dans les sondages. Mais tu as raison, ce sondage-là aujourd'hui montre que les Québécois n'en veulent pas de référendum, mais comme je te dis, ils votent quand même pour le PQ. Ça veut dire qu'ils veulent avoir un bon gouvernement nationaliste, revendicateur, comme celui qui a été élu en 76 quand René Lévesque a été élu. René Lévesque a été élu en 76 et il y avait premier référendum qui a perdu avec 41% des voix, puis il a été réélu plus fort encore avec une députation plus forte en 81. Alors, les Québécois votent quand même pour le PQ pour avoir un bon gouvernement provincial, sans nécessairement vouloir accéder à la souveraineté. C'est pas nouveau, cette affaire-là, c'est facile.
Mais je suis un peu découragé, là. Je suis un peu découragé, des fois, des Québécois. Souvenez-vous, ça a été quoi, le gouvernement qui a suivi la commission Charbonneau? On a revoté pour les libéraux.
Oui, oui, puis écoute, les Québécois sont pleins de contradictions, là. Écoute, on n'est pas facile à suivre. Quand les Anglais nous disent « What does Quebec want? » C'est parce que ils savent pas trop ce qu'on veut. Puis je pense que nous autres, on ne sait pas non plus. Il y a tellement de divisions dans le peuple québécois. Mais c'est un peu, m'a-t-on dit, ce qui avait mené la démission de Lucien Bouchard. Quand Lucien Bouchard a démissionné en 2001, pourtant, il avait été élu en 98 avec une assez bonne majorité. C'est Jean Charest, à l'époque, qui était chef libéral arrivant, puis qui avait été battu par Lucien Bouchard. Donc, un bon gouvernement souverainiste en 98, et Lucien Bouchard quitte en 2021, avant la fin de son mandat. On m'a raconté qu'une des raisons pour lesquelles Lucien Bouchard était parti, c'est qu'il avait, en plus d'avoir reçu l'appui des Québécois en 98, en 2000, les Québécois avaient voté pour Jean Chrétien au fédéral avec un gouvernement majoritaire. Fait que Lucien Bouchard s'était dit, il n'y a rien à faire avec les Québécois. Il n'y a rien à faire avec ce peuple-là. Ils s'en vont tout croche. Ils votent pour la souveraineté d'un côté, Ils votent pour un gouvernement souverainiste, puis ils votent pour Jean Chrétien, qui est l'antithèse de la souveraineté au fédéral avec un gouvernement majoritaire. C'est un peu ce qui arrivait aussi avec l'évêque, hein. L'évêque est élu en 76 avec un gouvernement majoritaire, puis les Québécois continuent de voter pour Trudeau au fédéral en même temps, à l'époque. Trudeau père, je veux dire. Alors, il n'y a pas grand-chose à comprendre, mais il y a beaucoup de place pour le découragement pour les leaders politiques, surtout les souverainistes, parce que les Québécois votent des deux côtés de la bouche, puis ça, c'est encore là, ça fait 50 ans que c'est de même.
Assez particulier. Maître Bellemare, je ne sais pas si vous l'avez vu passer dans l'actualité. Puis d'ailleurs, je parlais avec une législatrice du gouvernement hier. J'étais à une game de football entre Montréal et Québec, les Rouges et Or de l'Université Laval qui affrontaient les Carabins. Et il y a une législatrice qui est très à l'écoute de vos émissions qui disait « Yann, vous parlez plus ben de cause, moi c'est ça qui me motive. » Quand on parle d'une législatrice, là, c'est quelqu'un qui est au gouvernement, c'est une avocate, puis elle
Écrit
écrit.
des lois, un légiste, une légiste.
Une légiste, non. Donc elle écrit les lois. Et je me suis dit « Tiens, c'est vrai, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de ce type de dossier-là, puis peut-être qu'on entrera peut-être un peu plus là-dedans dans les prochaines semaines. » Mais j'ai vu quelque chose passer hier. C'est un Lavallois qui a leurré une adolescente pour ensuite multiplier les contacts sexuels en échange d'alcool, de cigarettes, d'argent. Qu'on dit que c'est souvent... Il s'est tellement bien aidé en prison qu'on va lui donner le tiers de sa peine. On parle d'un homme qui violait à répétition une jeune fille en échange d'argent. Et le gars, on lui a donné 9 mois de prison. 9 mois de prison, puis il a fait à peine une centaine de jours. Puis la Commission québécoise des libérations conditionnelles a dit « Hey, c'est tellement positif qu'on va vous remettre en liberté. » Son nom, c'est Nilton Carrero. C'est un résident de Laval, 41 ans, qui est libre aujourd'hui. Ses crimes remontent à l'été 2022. Lui, il a trouvé l'ado sur Internet. On parle d'une jeune fille. Puis après divers échanges en ligne, ben, ils ont décidé de se rencontrer en personne, soit une semaine plus tard. Et il est allé chercher la victime chez elle et il s'est rendu dans un stationnement du commerce où là, il y a eu échange de contacts sexuels contre rémunération. Quand on dit rémunération, ça peut être des petits cadeaux et tout ça, de la drogue, des cigarettes. Et finalement, ben, l'ado, après plusieurs rencontres, elle s'est confiée sur la situation à quelqu'un et elle a ensuite porté plainte à la police et l'homme a été arrêté. 9 mois de prison pour agression sexuelle.
Ouais. Ben écoute, 9 mois de prison, c'est déjà fort peu. Au moins, il y a eu de la prison parce que tu sais qu'il y a quand même une portion importante de prédateurs sexuels puis d'agresseurs sexuels qui bénéficient de peine dans la communauté, gracieuseté de Trudeau fils, avec sa loi de 2022, la loi C5, qui est encore en vigueur et que les conservateurs promettaient d'abroger si jamais il était élu. Malheureusement, ils ne l'ont pas été, en tout cas pour ce dossier-là. Alors, il y a beaucoup d'agresseurs sexuels qui ont des peines à la maison, qui peuvent même continuer de travailler, faire des sous, écouter leurs films préférés, recevoir des amis. Mais lui, il était condamné à prison. C'est au moins ça. 9 mois, ce qui est quand même très peu, parce qu'on parle d'une mineure, là. On parle d'une jeune fille approchée sur Internet, 16 ans, et avec des agressions répétées. On parle d'agression parce que le consentement ne compte pas à cet âge-là. Et une dizaine de rencontres par la suite où il y a eu des contacts sexuels sur une période de 6 mois. Donc, ce n'est pas juste une fois, là. Alors, on peut pas ici penser d'un accident de parcours ou d'un problème d'un individu ponctuellement qui s'est adonné à des agressions sexuelles. Mais là, la commission des libérations conditionnelles décide d'y donner 3 mois. Yannick, je l'ai souvent dit, le problème de crédibilité dans notre système de justice criminelle réside, à mon avis, beaucoup au niveau des libérations conditionnelles. Les gens sont écœurés de voir des peines qui ne sont pas respectées. Déjà que nos peines sont minimales, on comprend, à 9 mois, moi, je pense que c'était déjà un cadeau qu'on lui a fait. Mais en plus de ça, on vient amputer sa période d'incarcération des 2 tiers. Alors, c'est ça le problème. Les gens se disent, comment se fait-il qui va faire 3 mois alors que c'est 9 mois. Parce que c'est un bon gars. Puis on dit qu'il a compris sa problématique. Et il semble s'être repris en main, dit-on. Au lieu de se trouver des excuses, il a reconnu le mal qu'il avait causé. Mais je comprends, mais le mal qu'il a causé, ça mérite quand même objectivement une peine de prison de 9 mois, minimalement. Alors comment se fait-il qu'on le laisse sortir? Et tu sais que Quand le juge prononce une peine de 9 mois, il n'a pas le droit de tenir compte du fait que possiblement ce gars-là va sortir au bout d'un tiers de sa peine. Il n'a pas le droit de tenir compte de ça. Il ne peut pas dire, mais je vais te donner 27 mois parce que je sais que le système est tellement généreux pour les criminels qu'ils vont finalement te donner 9 mois. Comme tu n'as pas le droit, quand tu donnes 9 mois, de dire, je vais te donner plus parce que je pense que tu vas faire juste 3 mois éventuellement, donc un tiers de ta peine. Et c'est ça qui nuit à la crédibilité du système. Fait que les gens se disent, c'est quoi cette affaire-là? C'est quoi ce système-là? Ben, je leur dis bienvenue au Canada. Au Canada, c'est un paradis pour bien des criminels. Puis au niveau de la criminalité de nature sexuelle, on parle beaucoup. On parle des deux côtés de la bouche, blablabla, blablabla. Puis c'est-tu effrayant? Puis ça n'a pas de bon sens. Faut protéger nos jeunes. Puis les criminels, il y en a trop. Puis Internet, c'est trop facile. Mais en même temps, on se retrouve avec des résultats comme ça. Fait que c'est tout à fait pathétique et tout à fait décourageant. Alors, je pense qu'au moins, le DPCP devrait prendre message de ça et demander des peines plus sévères dans les cas de crimes sexuels, parce que véritablement, c'est un parti, là. On voit bien que la criminalité de nature sexuelle face aux jeunes n'est pas adéquatement réprimée au Canada. Donc, il faut agir au niveau des peines, plus de peines minimales, modifier le code criminel, plus de peines minimales, et que le DPCP demande, soit plus exigeant au niveau des peines. Comme dans un cas comme ça, 9 mois, déjà c'est surprenant, mais s'il n'y avait pas eu ce cadeau-là qui lui permet de sortir au bout de 3 mois, on ne l'aurait jamais su, Yannick, là, parce que c'est pas le genre de dossier. Il y en a tellement, c'est pas le genre de dossier nécessairement qui vient dans
Mais
l'actualité.
quel genre de société se donne comme objectif que dans des dossiers d'agression sexuelle sur des mineurs, on va donner des petites sentences comme ça? Puis quand on donne des petites sentences, un genre de 9 mois, quel genre de société permet qu'après 3 mois, ce gars-là puisse revoir la lumière du jour?
Ben, c'est la société canadienne, parce que toutes ces règles-là sont des règles fédérales. La commission ici qui s'est penchée sur le dossier, c'est la commission québécoise des libérations conditionnelles. Et bon, alors écoute, moi je suis complètement en désaccord avec les conclusions de la commission. J'aurais souhaité que ce gars-là reste en dedans. Comment peut-on penser qu'il a compris qu'il n'y a pas de risque de récidive, qui ne constitue pas un danger pour la société, un gars de 41 ans qui va sur Internet chercher une petite fille de 16 ans et qui en abuse pendant 6 mois, puis tout à coup, ah, il a compris parce qu'il y a un thérapeute en quelque part qui dit, il a compris, il est correct, il n'y a pas de danger, il est en maison de transition, puis il n'y a pas de danger qui récidive et qui constitue un danger pour la société. Écoute, moi, je ne marche pas là-dedans parce que je me dis que les peines sont insuffisantes. Et le message que ça envoie à la société, à tous ces prédateurs-là qui, en ce moment, sont en train de fouiller sur Internet pour trouver des jeunes filles, ben, le message qu'on donne, c'est, ben, les risques que tu te fasses pogner sont minimes. Si jamais tu te fais pogner, ben, les peines sont minimes aussi. Fait que, c'est quoi l'incitatif pour véritablement faire en sorte qu'on arrête d'avoir des prédateurs sexuels sur Internet, Yannick, dans ce contexte-là. Le message est plutôt le contraire. Le message, c'est tu peux t'essayer, tu ne te feras pas pogner. Puis si tu te fais pogner, avec un bon avocat, tu vas être capable d'aller chercher des conditions très favorables. Puis même si tu as une condamnation, les libérations conditionnelles, après ça, vont te couper ça aux 2 tiers.
Mais il pourrait pas y avoir un minimum pour ce qui est des sentences. Je sais que, exemple, quand on utilise une arme à feu lors d'un vol, tu peux pas faire en bas d'un an. On pourrait pas faire la même chose pour agression sexuelle sur des mineurs. On pourrait pas déterminer, ben, agression sexuelle sur des mineurs, c'est 3 ans, puis tu peux pas faire ton tiers, tu peux pas faire la moitié, tu fais ton 3 ans au grand complet, tu fais ton 36 mois.
Oui, c'est ça. Ouais, mais il faudrait imposer des peines minimales, mais il n'y en a pas de peine minimale pour ça. Alors, c'est pour ça que la loi C-5, dont on a déjà parlé, c'est une loi qui a été votée par David Lametti, qui était ministre de la Justice au fédéral, qui a été adoptée en 2022, alors que Justin Trudeau était premier ministre du Canada. Et cette loi-là permet des peines dans la communauté s'il n'y a pas de peine minimale. Alors, c'est pour ça qu'on a eu, dès 2023, un prédateur sexuel sur cinq condamné qui a bénéficié de peine à la maison. Et je suis convaincu que depuis 2023, ça a augmenté. On est certainement rendu à 30-40 % de prédateurs sexuels condamnés qui ont une peine dans la communauté. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de peine minimale. Alors, comment corriger ça, Yannick? Modifier le code criminel, imposer des peines minimales pour toute forme d'agression sexuelle, 1 an, par exemple, et abolir toute forme de libération conditionnelle pour ce type d'infraction-là. Alors, le gouvernement a le droit de faire ça, mais pour ça, il faut modifier le code criminel. Tant qu'on a un code criminel qui est aussi permissif, on va assister à des situations déplorables comme celles qu'on vit aujourd'hui. Un gars condamné à une peine de 9 mois de prison, qui fait uniquement 3 mois, puis les libérations conditionnelles disent, c'est un bon gars, il a participé à sa thérapie, puis il peut modifier à la baisse des 2 tiers là, sa peine de prison que pourtant un juge a donné, là, parce que c'est l'autorité du juge au bout de la ligne qui décide. Mais après ça, tu as des commissaires de la commission des libérations conditionnelles qui peuvent jouer dans cette sentence-là, même s'il n'y a pas eu d'appel de la part de la défense.
Nilton Carrero, sa sentence la plus dure, c'est elle d'avoir sa grosse face sur le site de la presse et sur le site du journal de Montréal. Il y avait aussi quelque chose sur lequel vous avez travaillé il y a de ça plusieurs années avec le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu. Il y avait même Geneviève Guilbeault qui vous avait fait des promesses pour un registre des délinquants sexuels. Compte tenu du fait que la CAQ n'est pas hyper populaire, ce ne serait pas une bonne chose de la part de la Coalition Avenir Québec de respecter les promesses qui vous avaient été faites à l'époque sur un registre des délinquants sexuels, puis le faire une bonne fois pour toutes, ce maudit registre-là?
Oui, parce que tu sais que les informations de nature criminelle sont publiques. Ça, c'est la théorie. C'est pour ça qu'on voit Carrero dans le journal, comme tu dis, avec sa face. Alors, parce que c'est public. Alors, un jugement de nature criminelle, c'est public. L'image de la personne, c'est public. Son nom, c'est public. Le nom de la victime, on ne le donne pas parce qu'elle est mineure. Mais le nom de l'agresseur, on peut le donner. Ce qui est public aussi, c'est le procès. Au palais de justice, si tu vas te promener au deuxième étage, là, au palais de justice de Québec ou à Montréal, tu vas voir des procès, tu t'assois dans la salle, puis tu vas voir des procès de nature criminelle. La justice est publique. Sauf que ce gars-là, Carrero, là, dont on parle aujourd'hui, qui a bénéficié des largesses de la Commission québécoise des libérations conditionnelles, ben, dans une semaine, on va avoir oublié son nom, Yannick, parce qu'il y en a tellement, puis l'actualité, ça va vite. Alors, à moins que ce soit un ancien député, ou un médecin comme Guy Turcotte, ou quelqu'un de très connu, Gilbert Rozon, quelqu'un de très, très connu dans l'actualité, dont on va se souvenir, on ne se souviendra pas de tout le monde. Alors, c'est la raison pour laquelle les informations publiques devraient être accessibles dans un registre, qu'on soit capable de pitonner simplement le nom de la personne, puis voir s'il y a eu des condamnations de nature criminelle. Ça ne coûterait pas un sou de faire un registre comme ça. Ça serait public et ça ferait en sorte que ce soit non seulement public, mais qu'on se souvienne de cette information publique-là. Alors ça, c'était une promesse de la Coalition Avenir Québec, du gouvernement Legault, qui avait été faite en 2018, au moment de l'élection majoritaire de François Legault pour son premier mandat. Promesse qui n'a jamais été respectée. On n'a toujours pas de registre aujourd'hui pour les agresseurs sexuels, pour les hommes violents, pour tous les condamnés du Québec qui ont échoué dans leur tentative d'être acquittés ou qui ont finalement plaidé coupables. On n'a pas de registre. On a le plumitif au palais de justice, mais pour pouvoir avoir accès aux informations de nature criminelle sur un individu, ça te prend sa date de naissance, ça te prend de l'information, faut que tu te déplaces, faut que tu connaisses l'informatique, faut que tu sois capable d'aller chercher cette information-là. C'est très laborieux et c'est la raison pour laquelle un registre facile, par exemple, tu vas cliquer Joseph Tremblay, exemple. Tu vois Joseph Tremblay de telle ville qui a été condamné à tel, tel, tel crime. C'est très facile. On a déjà l'information dans les ordinateurs du ministère de la Justice, mais pour toutes sortes de raisons, il n'y a pas accès facilement. Pour Joe Blow, là, qui lui n'a pas le temps de se déplacer pour aller chercher cette information-là, puis il n'a pas le temps d'engager un informaticien ou un avocat pour aller chercher l'information à quelque part, ou qui n'a pas la date de naissance du condamné. Alors, c'est une promesse qui n'a pas été respectée et il n'est pas trop tard. Si véritablement la loi et l'ordre pour M. Legault, c'est quelque chose d'important pour sa dernière année de son deuxième mandat, mais il pourrait peut-être remettre ça à l'agenda et demander à son ministre, Yan Lafrenière, le ministre de la Sécurité publique, de s'occuper de mettre en place, un registre qui serait, comme je te dis, les informations, on les a déjà. Il suffirait de les mettre dans un, de les numériser et de les rendre accessibles pour le commun des mortels à partir du nom et du prénom de la personne condamnée.
Moi, je suis vendu d'avance pour ce qui est du registre des délinquants sexuels. Je pense qu'une vaste majorité des gens qui nous écoutent présentement, Maître Bellemare, sont d'accord avec un registre des délinquants sexuels. Si ton enfant, si tu habites dans un quartier, tu as de jeunes enfants, tu veux savoir qui est-ce qui t'entoure, si tu as le registre, tu vas aller regarder ce qui se passe. J'ai-tu un délinquant sexuel proche de maison? OK, lui, il était à 4-5 pâtés de maison, fait que je vais demander à mes enfants qui ne s'approchent pas trop de ce secteur. Là, mais qui milite contre ce genre de registre-là? Parce que je pense que la majorité de la population serait derrière ce registre des délinquants sexuels-là. Mais qui milite contre? Parce que le gouvernement a tout avantage d'y aller avec ce que la population désire. Ça veut dire que de l'autre côté, il y a une force un peu obscure qui dit « Non, 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 nous, c'est la réinsertion sociale des pédophiles. »
Ben oui, c'est ça. Non, ben oui, mais c'est ça, Yannick, c'est que la première chose qu'un agresseur sexuel recherche, ou un pédophile, c'est l'anonymat. Ces gens-là, ils veulent vivre dans l'anonymat. Ils ne veulent pas être reconnus en fonction des crimes pour lesquels ils ont été condamnés ou ils ont plaidé coupable. Ils veulent qu'on les oublie. Ils veulent réintégrer une vie normale, avoir une job payante, pouvoir voyager partout, avoir des amis, sans qu'on parle de leur passé. Sauf que moi, leur passé m'intéresse. Parce que si j'ai un nouveau voisin qui s'appelle, je vais prendre un exemple, Louis W. Nelson, prenons cet exemple-là, qui vit à Notre-Dame-de-Grâce, à Montréal, puis moi, ma fille de 14 ans, va garder chez lui, va garder ses deux enfants de 2 et 4 ans. Ma fille, 14 ans. Alors, je veux vérifier, moi, les antécédents de Louis W. Nelson. Donc, je devrais être capable d'aller sur Internet, cliquer Louis W. Nelson, sur le registre des agresseurs sexuels ou des hommes violents, puis de trouver son nom, puis de voir qu'il a été condamné il y a 12 ans pour un crime de nature sexuelle sur une jeune fille. Ça m'intéresse, moi, comme parent. Et c'est pour ça que je voudrais savoir les antécédents de cet individu-là. Mais je ne suis pas capable d'y avoir accès parce qu'on n'a pas de registre et c'est très laborieux d'aller chercher ça dans le primitif du Palais de justice de Montréal. Alors, ceux qui sont d'accord avec l'anonymat, ben c'est les prédateurs sexuels dans un premier temps, puis tout le lobby de gauche, que j'appellerais la gauche judiciaire, là, toute la criminologie, puis toute la défense, puis tous ceux qui disent ben le lobby de la réinsertion sociale, il faut pas que le passé suive l'individu éternellement, l'individu a payé sa dette à la société, il faut permettre à tout le monde de rentrer dans l'anonymat pour pas être affecté par si tu veux, l'opprobre de cette condamnation-là, et il faut tourner la page, et il y a quelque chose de bon dans tout être humain, puis ta. Ça, c'est le lobby de la gauche là, qui demande socialement qu'on mette de côté toute forme de reproche ou d'opprobre lié à des condamnations antérieures, mais ça ne sert pas l'intérêt des parents. Ça ne sert pas l'intérêt de la communauté, ça ne sert pas l'intérêt de ceux et celles qui ne veulent pas que leurs enfants soient en contact avec des prédateurs sexuels, quoi que ce soit des prédateurs de plusieurs années de condamnation. Et moi, je suis plutôt du côté des parents. J'ai 5 enfants et je suis préoccupé par cette question-là. Et je pense que devant l'abondance des crimes de nature sexuelle commis sur les enfants, c'est important qu'on ait un registre. M. Legault était d'accord avec ça, il le promet en 2018. Alors, mettez ça à l'agenda, M. Legault, là, puis offrez-nous un registre, puis vous allez voir, il y a beaucoup de Québécois qui vont être favorables à cette idée-là pour la prochaine élection.
Maître Bellemare, on passe à notre prochain sujet. Je veux vous parler de la mairesse de Saguenay qui a été reconnue coupable d'accusations qui sont quand même assez sévères. On parle de manœuvres électorales frauduleuses. C'est des accusations qui datent de 2021 et, bon, la dame a été reconnue coupable. Elle a décidé de tenter de revenir contre cette décision-là en portant appel, ce qui fait en sorte qu'elle peut toujours se présenter à la mairie de Saguenay. Mais il est arrivé quelque chose dans le secteur de Québec, Maître Bellemare, entre deux groupes qui veulent accéder à la mairie de Québec, Respect citoyen avec Stéphane Lachance et le groupe de Sam Hamad qui est Leadership Québec. Deux personnes se seraient rencontrées et se seraient offert mutuellement des postes, alors que ce serait tout à fait illégal. Maître Bellemare, advenant le cas où un des deux se retrouve à la mairie du jour au lendemain, là, La décision de la Cour pourrait prendre 24 mois. Donc, ces gens-là pourraient être élus. Puis on devrait, quoi, les destituer à ce moment-là? C'est donc bien long, les enquêtes du DGE. Puis pourquoi le DGE n'ouvre pas tout de suite une enquête quand il y a des allégations de cette nature-là? Pas obligé de rendre ça public à tous les jours au day-to-day, mais on fait une enquête rapide, puis le jour avant les élections, on juge si les candidats sont toujours aptes à se présenter à la mairie de Québec ou pas. Maître Bellemare, on l'a reconnu coupable, puis ça datait de 2021, mais c'est donc bien long.
Oui, c'est long, effectivement. Et Mme Dufour a été élue quand même mairesse de Saguenay, à Chicoutimi. Et elle a été blâmée, elle a été condamnée par le juge Louis Duguay pour avoir offert à un adversaire politique une job. Et ça, tu n'as pas le droit de faire ça au municipal, puis c'est peut-être pas mauvais de se rappeler pourquoi ça existe, Yannick. Admettons que moi, je suis candidat à la mairie, puis toi, tu es candidat à la mairie aussi, dans une ville comme Montréal, OK? Puis moi, ben, je te dis, écoute, Yannick, tu vas retirer ta candidature, moi, je vais être élu, puis je vais t'offrir une job de directeur général de la ville à 250 000 par année, exemple. Ou 300 000 par année. Le problème, c'est ça, c'est qu'on veut éviter qu'il y ait du marchandage sur le dos des électeurs, puis que les candidats s'offrent des jobs intéressants, avec des salaires très intéressants, parce qu'on va monnayer finalement le retrait d'un candidat sur le dos des citoyens qui vont devoir supporter éventuellement l'embauche d'un candidat qui n'est peut-être pas nécessairement qualifié à un salaire qui n'est peut-être pas nécessairement raisonnable. Alors, c'est ça qu'on veut éviter. Donc, ça s'est produit à Saguenay, et là, à Québec, deux partis d'opposition, comme tu l'as dit tantôt, Sam Hamad, qui est l'ancien député de Weber, ancien ministre libéral, et M. Lachance, qui est le candidat de Respect citoyen. Ce sont deux partis. Puis ces deux partis-là, ensemble, pourraient former finalement une espèce de parti qui pourrait être... un parti qui pourrait battre le maire Bruno Marchand à Québec, qui est le maire depuis 2021. Alors là, il y a eu comme des négociations qui ont eu lieu, et semble-t-il qu'on aurait offert, chacun s'accuse mutuellement d'avoir offert à l'autre une job ou de s'être fait offrir une job qui serait contraire à la loi sur les élections et les référendums qui a amené Mme Dufour, mairesse de Saguenay, à être condamnée devant la Cour du Québec. Alors, d'abord, on peut se surprendre du fait qu'à Québec, il y a quand même des partis politiques importants qui n'aient pas compris la portée de la loi, parce que c'est illégal de faire ça. Fait que là, on a un problème. On peut se demander comment ça se fait que des candidats aux élections municipales de Québec, dans des partis importants, respectables, n'ont pas compris ça, puis commencent à négocier des retraits d'un puis de l'autre au profit d'éventuels avantages au niveau de la ville, si jamais leur parti remplace le maire Bruno Marchand.
Mais la nuance, maître Bellemare, puis c'est là où j'aimerais que vous m'éclairiez un peu là-dessus, c'est que dans le cas de cette dame-là, elle était conseillère à l'époque et c'était pendant... on n'était pas encore aux élections. Donc, il y a eu une négociation alors qu'elle était conseillère à la ville. Dans le cas de Respect citoyen de Leadership Québec, c'est pas les principaux candidats qui sont non élus. C'est vraiment, d'un côté, un bénévole et de l'autre, quelqu'un qui travaille pour l'organisation qui aurait négocié entre eux. Et là, de ce que je comprends de source sûre, c'est que d'un côté, du côté de Stéphane Lachance, on aurait fourni des preuves au DGE en plus de porter plainte, tandis que du côté de sa maman, on a dit « Nous, on s'est juste fait offrir quelque chose, on n'a rien offert, puis on va déposer une plainte au DGE. » Mais il n'y a toujours pas de plainte depuis les 4-5 derniers jours là, qui ont été déposées au DGE de la part de l'équipe de Sam Hamad. Comme c'était des gens qui étaient non élus, ils n'ont pas le droit de jaser de ça ensemble, maître Bellemare. Elle est là, la nuance, parce que quand on est élu, faire ça, c'est atroce, là. Mais quand on n'est pas élu, c'est de la spéculation, c'est des deal-makers, ils jasent. Tu sachez que rendu dans les conseils de ville, on regarde ce qui s'est passé à Québec, entre autres avec le maire Marchand, puis des membres de groupes d'opposition qui ont négocié ensemble et qui se sont joints finalement au maire Marchand, puis aujourd'hui sont au conseil exécutif de la ville de Québec. On comprend bien que, viens-t'en dans mon équipe, je vais te mettre au conseil exécutif. Il y a un montant d'argent qui vient avec ça, bien entendu, parce qu'ils sont plus payés, parce qu'ils ont plus de tâches. C'est sûr qu'il y a de la négociation, là.
Oui, mais au moment où les discussions ont eu lieu, je pense que les deux candidats à la mairie, Stéphane Lachance puis Sam Ahmad, étaient présents. Et les gens qui ont fait des propositions de dire...
Il n'était pas présent lors de la rencontre. Ça, c'est de source sûre. Là, il n'était pas présent lors de la rencontre. C'est deux personnes de l'organisation qui étaient là et qui ont jasé.
C'est quand même des gens en autorité, là. C'est quand même des gens en autorité qui sont très, très près du candidat. Et de penser que le candidat n'était pas informé des propositions qui avaient été faites, c'est à peu près impossible. Je ne sais pas comment le DGE va se démêler là-dedans, mais c'est sûr que sur le principe, voulant qu'on ne puisse pas négocier des retraits de candidature au profit de promesses d'embaucher quelqu'un dans des fonctions importantes de la municipalité, que ce soit à Montréal ou à Québec ou n'importe où, je pense que le principe doit être respecté, puis c'est inacceptable de rechercher l'abandon d'une candidature moyennant la promesse d'embaucher cette personne-là, que ce soit à Montréal ou à Québec. À Montréal, on n'a pas vécu ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des discussions qui ont eu lieu. Puis il y a peut-être des discussions qui ont lieu sans qu'on le sache, mais dans ce cas-ci, à Québec, ça a pété aux frettes. Puis là, c'est devenu un peu le point le plus important. Puis M. Marchand, lui, il est mort de rire parce qu'il voit les deux candidats anti-tramway, parce que c'est un peu ça le principe, c'est que M. Marchand est pour un tramway à Québec alors que Ahmad et Lachance sont contre. En tout cas, contre la formule de tramway souhaitée par M. Marchand, le maire actuel. Et là, les gens vivent une grande désillusion. Moi, j'ai l'impression, j'en parle avec des gens autour de moi puis qui me disent, mais c'est quoi cette joke-là, tu sais? Fait que la crédibilité des deux parties, de M. Lachance et de M. Ahmad, en prend pour son rhume de ce temps-là, à mon avis. Et je pense que M. Marchand est le grand gagnant de ce déchirage de chemise là, sur la place publique autour de discussions visant à amener l'un des deux candidats à se retirer de la course au profit de certains avantages financiers.
On passe la soirée en compagnie de Maître Marc Bellemare, spécialiste de la SAAC, de l'IVAC, de la CNESST, si vous avez des problématiques avec ces trois organismes-là. C'est bellemareavocat.ca, bellemareavocat.ca. On va faire une courte pause et on vient tout de suite.
Marceau, le soir. Le Pit Stop. Le duo Gravel-Marceau est de retour maintenant à 7h45 pour traiter des gros dossiers du jour. Votre nouveau rendez-vous incontournable du matin. Le Pit Stop. Le Pit Stop.
As-tu vu le paquet de cornichons qui se présente pour devenir conseiller municipal à Montréal? Raciste en fin de semaine,
ouais, c'est
là.
Ça.
Le gars qui publie un paquet d'affaires racistes sur Facebook qui se présente, puis a m'amené, ben, la chef de son parti ouvre Facebook. J'ai un raciste, moi, qui se présente comme conseiller municipal. Faudrait que je l'enlève de là.
Gabriel Hull, qu'il s'appelle.
Le gars perd sa candidature, puis il dit « Ouais, c'est la cancel culture ». Non, c'est parce que t'es raciste, puis tu partages des posts racistes sur Facebook, triple idiot.
Le Pit Stop, 7h45, à Boulevard 102.1. Maintenant, 100% parler en semaine.
Ce segment d'émission présenté par Pièces d'auto économique. N'attendez pas la dernière minute. L'hiver approche et les rabais, c'est maintenant. Pièceséconomique.com. Ce segment d'émission présenté par Pièces d'auto économique. N'attendez pas la dernière minute. L'hiver approche et les rabais, c'est maintenant. Pièceséconomique.com.
Passez à l'électrique avec le F-150 Lightning, avec son style robuste et avant-gardiste. Ce mois-ci chez Levy Ford. Obtenez-le pour seulement $799 par mois pendant 48 mois avec $0 de compte. La puissance Ford sans une goutte d'essence. Levy Ford, les forts de Levy.
Levy, le plus grand chantier naval du Canada, recrute activement pour plus de 1000 postes. Peintre, assembleur mécanique, électricien, contremaître et bien plus. Avec un carnet de commandes rempli jusqu'en 2040 et des conditions de travail solides, ose le grandiose pour ta carrière. Postule à devirecrute.ca.
À Courdelais, jusqu'au 10 novembre, courez chez Couche-Tard. Achetez un produit laitier participant et vous pourriez gagner l'une des 25 cartes cadeaux de $1000 en lait. Ne manquez pas votre chance! Couche-Tard, tous les 4 litres au plus bas prix permis par la loi.
Au Québec, on l'aime notre bois. C'est un matériau renouvelable, éco-responsable et ça vient de chez nous. Et avec le bois, On peut pratiquement tout faire. Des beaux meubles en bois, des maisons en bois, des instruments en bois, puis plein d'autres choses comme des livres, des mouchoirs, puis un bilboquet. C'est pas pour rien que c'est un pilier économique pour tout le Québec qui fait vivre plus de 900 municipalités. Le bois, c'est une ressource exceptionnelle. Et l'industrie forestière du Québec est fière de valoriser cette richesse si essentielle à nos vies.
Dans la PME de Julie, le commerce de Benoît ou une grande entreprise, tout le monde a un rôle à jouer en matière de santé et de sécurité au travail. Depuis le 1er octobre 2025, la loi sur la santé et la sécurité du travail a été modifiée. Et les plus grands, comme les plus petits milieux de travail, ont de nouvelles obligations concernant les mécanismes de prévention et de participation. Pour connaître les changements qui vous concernent, visitez le cnesst.gouv.qc.ca/nouveauté-sst. Un message de la CNESST.
Si tu cherchais un signe pour enfin soulager tes douleurs aux pieds, eh bien, le voici. La Clinique podiatrique Beauport compte 5 podiatres qui s'occupent de traiter les douleurs aux talons, les verrues plantaires et les ongles incarnés. Occupe-toi de tes pieds. Rends-toi sur podiatrebeauport.com.
Ce mois-ci, chez Laval Volkswagen, conduisez l'ID4 2025 et profitez de 5 000 de rabais et d'un financement à 0 % pendant 60 mois. Oui, oui, 0 % d'intérêt et sans oublier la subvention gouvernementale de 4 000 Laval Volkswagen, sans flafla depuis 1968.
La campagne Donnant-Donnant est lancée pour soutenir la Société Alzheimer de Québec. Chaque don sera doublé jusqu'à 15 000 grâce au Dr Guy Tremblay de Lokia. Aidez-nous à atteindre 110 000 Visitez SocietéAlzheimerDeQuébec.com pour donner. Merci pour votre générosité.
Chez SFL, on est un réseau de conseillers indépendants en gestion de patrimoine. Tous les patrimoines. Sauf un patrimoine, c'est l'ensemble de vos biens et de votre argent, entre autres. Et on s'occupe de gérer
les gros patrimoines qui s'accumulent depuis des années.
Tout comme les petits patrimoines qu'on commence à bâtir. Alors, que ce soit pour vos placements, vos finances, vos assurances ou votre entreprise, le futur se planifie plus facilement quand on y pense dès maintenant. SFL, gestion de patrimoine. Découvrez-nous au sfl.ca.
Des Harnais, c'est une grande famille de plus de 200 passionnés qui, en prenant grand soin de votre véhicule, prennent d'abord soin de tous ceux qui montent à son bord. Parce que rouler en confiance et en sécurité, c'est juste parfait.
Du 6 au 12 octobre, obtenez l'installation gratuite et une remise postale de 85 $ à l'achat de 4 pneus Michelin sélectionnés, une offre exclusive .S. Les pneus Michelin, pour une confiance ultime sur route enneigée et glacée. Détail et rendez-vous sur desharnais.ca.
Des Harnais, c'est juste parfait.
Mes amis, il est temps de dire un dernier adieu aux anciennes règles de tri. Elles emportent dans le deuil tous nos doutes devant le bac de récupération.
C'est vrai que c'était mélangeant.
Maintenant, la règle, c'est contenant, emballage, imprimé.
Donc, je peux mettre ma bouteille d'huile d'olive?
Oui, contenant.
Mon papier d'aluminium?
Oui, emballage.
Les lettres d'amour de mon ex?
Imprimé.
Dites adieu aux anciennes règles de tri. La seule à retenir, c'est contenant, emballage, imprimé. Un message de Bac Impact, la nouvelle référence en collecte sélective.
Cette semaine, chez Métro, on fait pas la grève sur les économies. Même si votre circulaire n'est pas arrivé par la poste, les économies, elles, sont arrivées sur plus de 7500 produits. Comme les poitrines de poulet frais désossées à 5,44 la livre ou 11,99 le kilo, les cassoules bleues 170 grammes sont à 2,44 et le beurre sélection 450 grammes est à 4,88. Retrouvez toute la circulaire complète en ligne au métro.ca. Les conditions s'appliquent. Détails en magasin.
Salut, c'est Marie-Lou. Comme vous le savez sûrement, en ce moment, tout le monde a de l'intérêt pour Chevrolet. C'est entre autres parce qu'il y a 0 % d'intérêt sur le financement de tous les modèles 2025 en stock, et ça, même pour les véhicules électriques. Oui, oui, zéro. Alors, si vous cherchez à pas payer d'intérêt et que vous avez de l'intérêt pour un nouveau véhicule, vous avez tout intérêt à en profiter pour pas payer d'intérêt avec Chevrolet. On se comprend? Au risque de me répéter, si vous avez de l'intérêt pour un véhicule Chevrolet, passez chez votre concessionnaire ou visitez Chevrolet.ca. Certaines conditions s'appliquent.
T'es autant intéressé par ce qui se passe à Québec que par ce qu'il y a de nouveau dans le monde du rock.
Boulevard 102.1.
Tes sujets, ton rock, ta radio.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Maître Marc Bellemare est avec nous ce soir. Jusqu'à maintenant, tout va bien de votre côté, Maître Bellemare?
Oui, absolument.
Québec qui négocie avec ses médecins, là, ils n'ont pas le droit de reculer. Là. Le gouvernement de François Legault qui n'a plus vraiment rien à perdre, là, avec des intentions de vote aussi basses à son égard, je pense qu'ils ont tout à leur avantage à essayer de signer avec les médecins. Les médecins qui veulent vraiment pas avoir un bonus de performance. On parle d'un 15% là, de bonus de performance qui serait lié à leur travail. Ça semble être extrêmement difficile au niveau des négociations. Est-ce que les médecins, c'est les bébés gâtés du Québec?
Bien, c'est sûr. C'est sûr, parce que c'est des entrepreneurs. C'est des petites PME, finalement. C'est des entrepreneurs. Et ils travaillent quand ils veulent. Ils ne travaillent pas quand ils veulent. Ils décident pas mal des revenus qu'ils vont avoir selon les consultations qu'ils vont faire. C'est sûr qu'ils sont avantagés, les médecins, mais ils ont le mérite d'avoir fait des études. Ils ont le mérite d'avoir été chercher une diplomation dans un domaine extrêmement difficile. La santé, tu le sais, en tout cas tout le monde qui a fait des études supérieures sait bien que les médecins sont des gens qui sont en général parmi les étudiants les plus doués du Québec. Ça, c'est la première chose à faire. Il ne faut pas décourager les médecins et les jeunes d'aller en médecine. On a besoin de gens, surtout avec notre population qui vieillit. Sauf que j'écoutais la semaine dernière le président de la Fédération des médecins spécialistes qui disait dans une espèce de podcast, ou je ne sais pas trop, là, une espèce de message sur Internet, un message à M. Dubé, le ministre de la Santé. Est-ce que vous connaissez en Amérique du Nord d'autres catégories de travailleurs ou de personnes qui sont assujetties à des indices de performance? Mais moi, j'avais le goût de dire oui, tout le monde. Parce que toi, Yannick, là, tu es assujetti à des indices de performance. Tu dois performer. Les coûts d'écoute doivent être au rendez-vous. Moi, comme avocat, je dois performer dans mes causes, dans la qualité des services que je donne, les causes que je gagne, la qualité des interventions publiques que je fais. Alors, et tous les employés que je connais au Québec sont obligés d'être performants. C'est peut-être pas le même type d'indice de performance calculé de la même manière que les médecins, mais que le ministre de la Santé veuille introduire dans la rémunération des médecins des indices de performance qu'on tende à favoriser plus de travail chez les médecins, la prise en charge de plus de patients. Il y a tellement de Québécois qui n'ont pas de médecin de famille, là. Puis des gens qui ont des besoins en termes de santé, je le sais au bureau, moi je travaille avec des victimes d'accidents, ils ont un an et demi avant de voir un spécialiste, pas de médecin de famille, ils sont obligés d'aller au privé puis de payer cher pour avoir des médecins, pour remplir les formulaires de la CNSST puis de la SAAC, c'est inacceptable. M. Dubé est pris avec ça, puis le premier ministre François Legault a été ministre de la Santé dans des gouvernements antérieurs. Il sait de quoi il parle. Et je suis content qu'on ait à Québec un premier ministre, un ministre de la Santé qui s'intéresse à ça puis qui veuille, à travers des indices de performance, parce que je ne vois pas comment on peut y arriver autrement, augmenter le nombre de prises en charge des médecins. Parce que la finalité, c'est ça. On veut que les Québécois aient des médecins de famille. Plus de Québécois qui aient des médecins de famille. Et si c'est ça l'objectif, on ne peut pas être contre la position du ministre Dubé. On peut voir que les fédérations de médecins ont des outils pour faire des pressions. Ils ont beaucoup d'argent, ils ont des moyens de pression illimités, ils peuvent prendre la santé des Québécois en otage, mais je pense que dans cette chicane-là, dans cette guerre-là, à mon avis, le gouvernement Legault a l'appui de la population.
Oui, puis ils peuvent pas, le gouvernement Legault ne peut pas reculer là-dessus. J'ai bien hâte de voir la suite, mais en jasant avec des gens qui sont dans le merveilleux monde de la santé, autant des infirmières que des médecins, ce qu'on me mentionne, c'est que, bon, il y a plusieurs complexités, bien entendu, puis des fois, avec les horaires, c'est pas toujours évident, mais quand ils veulent en faire plus, c'est-à-dire aller travailler pour une clinique privée pour donner des soins à des gens qui sont membres, exemple, de cette dite clinique privée-là, doivent se désaffilier. Et de plus en plus, c'est extrêmement compliqué, surtout avec la nouvelle loi là, qui est rentrée en place, où c'est vraiment Santé Québec là, qui accepte ou non que des médecins se désaffilient. Là. Ça peut être des chirurgiens comme ça peut être des médecins omnipraticiens. Quand même très complexe, là. Quiconque devrait être libre de travailler où il veut, quand il veut, Maître Bellemare. Je trouve ça particulier.
Oui, c'est inacceptable, à mon avis, qu'on empêche des médecins de se désaffilier parce qu'on fait ça depuis avril 2025. Le médecin doit demander à Santé Québec, est-ce que je peux me désaffilier? Puis c'est systématiquement refusé. parce que le gouvernement veut garder dans le réseau public, avec la RAMQ, le système de santé publique, le plus de médecins possible. Je comprends ça. Mais en attendant, moi, je veux aller au privé, par exemple, parce que je n'ai pas le goût d'attendre d'un rendez-vous chez le médecin qui finit plus d'arriver. Je n'ai pas de médecin de famille. Je veux aller au privé. Je suis prêt à payer, moi, 250 $ pour une consultation d'une demi-heure à un médecin privé. J'ai le droit de faire ça. Qu'on ne m'empêche pas, en attendant, d'avoir accès à un médecin de privé pour ma santé, parce que ma santé, c'est ce qui est le plus important. Mais là, en diminuant le nombre de médecins au public, au privé plutôt, on va empêcher des gens plus fortunés d'avoir accès à des soins de santé. Moi, je suis contre ça. Je pense qu'on devrait avoir un système mixte. En attendant que le système public puisse satisfaire tout le monde, si jamais c'est réaliste de le penser, mais qu'on permette au moins d'avoir accès au système privé de santé puis de payer des médecins de notre poche, ça n'enlève rien aux autres. Ça me permet de libérer les listes d'attente, ça permet d'avoir accès à des services plus rapidement, puis ça fait pas mal à personne. C'est ton argent, t'en fais ce que tu veux. Mais là, je veux te dire, au niveau du système public de santé, on se souviendra du ministre Rochon qui avait été élu député de Charlebourg à l'époque. Rochon, qui était le ministre de la Santé sous Lucien Bouchard, ou sous Jacques Parizeau, je crois. Après ça, tu as eu la série de médecins avec les libéraux en 2003, avec Couillard qui est élu avec Jean Charest en 2003. Après ça, tu as eu M. Barrette et tu as eu quand même des médecins, des gens compétents au niveau de la santé depuis une cinquantaine d'années. Puis on en est rendu là où il y a une quantité importante de Québécois qui n'ont pas de médecin de famille. Ça ne marche pas, notre système de santé. Alors, on ne peut pas blâmer M. Dubé d'essayer de trouver d'autres solutions. Je comprends qu'il veut mettre les médecins au pas, puis il veut les amener à 15 % de leur rémunération qui serait axée sur des sites de performance, donc augmenter leur clientèle. Il va falloir trouver une solution à un moment donné parce que le système actuel ne marche pas, tout le monde s'entend là-dessus. Puis tous les gouvernements qui se sont succédés à Québec, que ce soit la CAQ, le PQ, les libéraux, avec des gars aussi intelligents que Philippe Couillard à Santé quand même pendant longtemps. Je pense qu'il était là entre 2003 puis 2008 ou 2009. Quand même, on n'a pas réussi à aller chercher une augmentation sensible du nombre de dossiers ouverts, de nouveaux clients, de nouveaux patients servis par le système de santé publique pour lequel on paye plus de 50 % de nos impôts. Alors, bonne chance pour M. Dubé. Moi, j'espère qu'il va être capable de trouver un compromis. Je comprends que pour l'instant, c'est un peu compliqué avec tout ce qui se passe, les grèves, les moyens de pression, les étudiants en médecine dont la diplomation est compromise. Mais je pense qu'il faut passer par là pour avoir un changement important qui va bénéficier à tout le monde.
Comme dirait l'autre, qui vivra verra. Je vous souhaite de passer une agréable soirée, Maître Bellemare, puis on reprend ça lundi prochain.
Parfait. Merci. Bonne semaine.
Pour ce qui est des auditeurs, on se reparle demain à la même heure. Merci d'avoir été là. Salut tout le monde. Ciao.
Marceau, le soir.
Chez Anti-Rouille Métropolitain, c'est le grand blitz avant l'hiver. Protégez votre véhicule contre la rouille et prenez rendez-vous sur antirouille.com. Anti-Rouille Métropolitain, grouille avant que ça rouille.
Silence, puissance, confort. C'est ça le Volkswagen ID4 2025. Ce mois-ci, conduisez électrique et profitez de 5 000 $ de rabais et d'un financement à 0 % pendant 60 mois. Oui, oui, 0 % d'intérêt. Et c'est sans oublier la subvention gouvernementale de 4 000 $. Je vous le dis, l'électrique n'a jamais été aussi accessible. C'est le temps d'en profiter. N'attendez plus et passez chez Laval Volkswagen pour essayer l'ID4 2025. Laval Volkswagen, sans flafla depuis 1968.
Par mes courses à pied, puis ma marche à pied. Quartier Mosaïque, c'est mon nouveau beat de vie. À deux pas des galeries de la capitale et d'un immense boisé, le Quartier Mosaïque offre de superbes condos locatifs au cœur de Le Bourgneuf. Pour visiter, quartiermosaïque.com.
Je bouge pour être bien dans mon corps et dans ma tête. Pour conserver mon autonomie, pour rester chez moi longtemps... et pour continuer à jouer avec mes petits-enfants. Et bouger à mon âge, ça peut être simple. Je sors marcher dehors, je choisis parfois l'escalier plutôt que l'ascenseur, ou je fais une activité qui me plaît, comme le vélo, la danse ou le tai chi. Je l'intègre à mon quotidien, pour moi et pour ceux que j'aime. Bouger plus, vieillir mieux. Un message du gouvernement du Québec.
L'Institut d'Yves a grandi et il cherche à compléter son équipe. Vous êtes passionné par la coiffure, l'esthétique ou par les soins des ongles?
Joignez une équipe dynamique et professionnelle dans un nouvel environnement chaleureux et moderne. Faites partie de la famille Diva dès aujourd'hui. Postulez maintenant.
Chez Marlin Chevrolet Bio et GMC, profitez de 0% de financement sur tous nos modèles 2025. C'est imbattable. Chevrolet Trax, GMC Sierra ou Buick encore GX, passez chez Marlin Chevrolet Bio et GMC au 2145 rue Frank-Carrel et repartez au volant de votre nouveau 2025.
Chez Top Cornichon, il y a de l'action.
Youpi!
Dès maintenant sur l'appli de Télé-Québec, des personnages rigolos piquent la curiosité de vos enfants.
Cornichou, j'ai une idée!
Avec eux, ils apprennent...
Il faut faire très attention quand on veut traverser la rue.
Et bougent tout en s'amusant.
On va faire des mouvements en même temps. Suis-moi!
Téléchargez l'appli de Télé-Québec.
Bonne idée!
Où vous trouverez plein d'émissions qui plairont aux tout-petits.
Oh! Regarde-toi aussi!
Bon travail, les amis!
Top Cornichon, dès maintenant à la télé, sur le web et l'appli de Télé-Québec.
Transformez votre journée en jour de casino. Jouez au jackpot, jeux de table en direct et plus. Découvrez les machines à sous les plus populaires comme Book of Dead et Immortal Romance et jouez à la roulette, au blackjack et à bien d'autres à Casino Days. Ouvert à tous les joueurs 18 ans et plus, ce site vous permet de vous amuser gratuitement. Veuillez jouer de manière responsable.
T'as manqué le début du dernier segment? Tout finit par se retrouver sur le blvd.fm.
La campagne Donnant-Donnant est lancée pour soutenir la Société Alzheimer de Québec. Chaque don sera doublé jusqu'à 15 000 grâce au Dr Guy Tremblay de Lokia. Aidez-nous à atteindre 110 000 Visitez societéalzheimerdequebec.com pour donner. Merci pour votre générosité.
Bienvenue aux petits rigurgis, aux gros vomis, aux rougeurs bizarres, aux têtes qui piquent.
Oh non!